Notre histoire, l'émission Alexis et Nicoletta font le tour d'histoire dans la région.
Grâce à une subvention de Nouveaux Horizons.
Vous êtes en compagnie de moi-même, Alexis Boudreau, à CKGN, La Voix de chez nous, 89.7, 94.7. Vous écoutez l'émission Notre Histoire. Notre Histoire, cette fameuse émission dans laquelle on va faire le tour d'histoires assez importantes pour notre communauté d'Opasatika jusqu'à Smooth Rock Falls. Des histoires qui vous ont touché, des histoires qui vont vous rappeler des bons souvenirs. Faut débuter cette émission aujourd'hui avec une histoire qui nous touche toutes, qui touche tous les gens de la région. C'est la fameuse histoire de l'usine à Kapuskasing. L'usine qui a débuté, l'usine de pâte et papier, bien sûr, qui a débuté en 1926. Dans les années 1970, il y a eu une grève aussi. On va en parler un peu plus davantage durant cette émission-là. On va parler aussi en 1991, en fait, de la fois où que les employés ont racheté l'usine parce qu'il y avait des petits problèmes financiers. L'entreprise, ils ont laissé en 1991 la fameuse usine et c'est les employés qui ont décidé de tout racheter. Acheter le tout. On va parler aussi de tout ce que l'usine fait pour ses employés. Par exemple, à chaque fois que les employés fêtaient leurs 25 ans dans l'entreprise, il y avait des énormes cadeaux. On va en parler plus davantage avec, bien sûr, nos deux collaborateurs aujourd'hui. On va parler aussi de documentation qui sont toujours disponibles sur le sujet. Mais il faut débuter avec Julie Latimer. Julie Latimer qui travaille à la bibliothèque de Kapuskasing, qui a travaillé aussi au musée de Kapuskasing. Elle nous le parle de l'histoire du début dans les années 1920.
Alors, ça a commencé avec Kimberly Clark. Okay. Que eux autres, ils ont décidé, il y avait beaucoup de compagnies américaines qui venaient dans le nord de l'Ontario pour exploiter les forêts parce qu'il y en avait besoin beaucoup de papier aux États-Unis. Alors, eux autres se sont installés ici sur le bord là, de la rivière Kapuskasing où on connaît l'industrie présentement. Et puis, ils ont essayé de faire ça, là, 1921, 22, 23, ils ont eu de la misère dans les premières années, mais ils n'ont pas lâché, qui est une vraiment bonne chose pour nous qu'on peut voir aujourd'hui. Alors, ils n'ont pas lâché. Mais après ça, il y a de l'histoire qui commence en 1917 actuellement. Avant même qu'il y avait un Kapuskasing propre, qu'il y avait l'usine même. Parce qu'en 1917, Arthur Hayes Sulzberger, à New York, a marié la fille du propriétaire de la New York Times.
Oh, OK.
OK, ça commence en 1917, ça, là. Mais le propriétaire de New York Times, c'est le monsieur Hawks. Il a dit, si tu veux marier ta fille, il faut que tu viennes travailler pour moi. So, Arthur, il a dit, ben j'aime ta fille. So, oui, je vais aller travailler pour vous autres. Mais là, il ne savait pas trop exactement c'était quoi sa tâche là-dedans, Arthur Hayes Sulzberger. Alors, il a décidé lui-même d'entreprendre la position d'aller chercher du papier journal pour la compagnie. Okay. Il a été en Suède, je crois, à d'autres pays, puis il est venu à Kapuskasing parce qu'il connaissait le Kimberly puis le Clark. Puis l'usine était là. Puis là, lui, il a fait « c'est intéressant ». Alors, lui a proposé ça à son beau-père. Puis, en 1924, ben, le Arthur Sulzberger, J.C. Kimberly, après ça, des Kapuskois, là, Bob Hickey, Sandy Downey, Joe Downey, puis Ernie Profit, ils ont été dans le Nord, ils ont voyagé sur la Kapuskasing jusqu'à Moosonee en canot, en bateau. Puis là, c'est là qu'il a dit « Ouais, on veut vraiment signer une entente ». Alors, c'est en 1926 que le Kimberly Clark puis le New York Times ont signé un contrat qui, les deux compagnies appartenaient à la Spruce Falls Power and Paper Company. 1926, le lendemain, ils ont commencé la construction du chemin de fer qui partait de Kapuskasing à Smoky Falls pour une génératrice de pouvoir. Puis la grosse raison pourquoi ils voulaient ça, d'habitude, M. Hawks de New York Times, il ne voulait pas se joindre à des compagnies. Mais là, en faisant partie de la Spruce Falls Power and Paper Company ici, il avait accès toujours à du papier journal, qui c'était sa compagnie.
Comme puis, il voulait.
Comme il voulait. Que le prix monte, que le prix baisse, ça ne lui faisait absolument rien parce qu'il avait sa quantité de papier journal assuré. Puis s'il y avait du surplus, il vendait à d'autres. Alors, c'était méga bonus pour lui, là. Ça faisait juste tout le meilleur sens possible pour la compagnie New York Times.
Embauchait.
Tout le monde qui arrivait. Parce que tu avais les hommes qui construisaient l'usine ou qui agrandissaient l'usine. Puis les photos de tout ça, c'était incroyable parce qu'il y avait la petite usine, la partie originale. Puis après ça, on voit là, les photos qui ont creusé les fondations, okay. Puis montaient tout ça. Puis après ça, tu avais des équipes qui construisaient le chemin de fer jusqu'à Smoky Falls. Parce qu'en plus de développer l'usine ici, ils voulaient aussi avoir leur propre source d'électricité. Alors, à Smoky Falls, qui est à peu près une cinquantaine de milles, 51 000 au nord d'ici, ils ont construit la Smoky Falls, tu avais ceux qui construisaient. Ben, c'était incroyable. Déboiser le chemin, là. Déboiser toutes les... Parce qu'il y avait quasiment rien de construit à Kapuskasing. Déboiser, mettre la fondation pour les chemins de fer. C'est incroyable. Les photos qu'on voit de ça aussi, c'est incroyable. C'était vite, vite, vite. Mais très bien fait aussi parce que ce chemin de fer avait duré longtemps, longtemps. Ils l'ont fait construire aussi par-dessus la rivière. Et puis, c'était incroyable. Après ça, c'était la construction de l'affaire hydroélectrique. Là. L'affaire, le barrage. Ben là aussi, même avant le barrage, ils ont arrêté la rivière pour être capables de construire sur l'autre bord. L'ouvrage qu'ils ont fait, c'est incroyable. Ils ont vraiment travaillé avec rien. C'était leur effort, leur connaissance, c'était merveilleux à voir. Alors, tout ça a été construit. Mais après ça, ici à Kapuskasing, c'était plus que juste l'usine qui a grandi. Parce que là, ils savaient qu'à Kapuskasing, 1926, il n'y avait pas énormément de maisons. Il n'y avait pas, d'appartements, c'était des chambres à louer. Il n'y avait pas rien de développé pour la communauté. Alors, M. Hawks, lui, sa grande philosophie, c'est qu'il voulait prendre soin de ceux qui travaillaient pour lui. Il voulait pas juste lui faire des profits. C'était, oui, des profits, mais je veux que les employés qui vivent là soient considérés partie de la famille. Alors, ça faisait partie aussi de leur contrat avec le gouvernement ontarien, c'est qu'ils devaient aider à bâtir Kapuskasing. Alors, ils ont commencé à construire... l'auberge Kapuskasing, le Cap-In, puis là, c'était pour des employés, des hommes pas mariés qui vivaient là, puis ils pouvaient, aller à l'ouvrage facilement. Ensuite, ils ont construit le club communautaire qu'on connaît aujourd'hui comme le centre civique. Ils ont construit ça pour que leurs employés aient une place pour aller se détendre, lire des journaux, jouer au quai, prendre une liqueur douce, ces affaires-là, jouer des sports. Ensuite, ils ont construit l'hôpital, Sensenbrenner, l'original, qu'aujourd'hui, on connaît comme Drury Place. Alors, ça, c'était pour leurs employés. Après ça, ils ont commencé à construire des maisons pour leurs employés. Alors, le New York Times sont vraiment impliqués pour améliorer notre communauté pour le bien de leurs employés. Puis après ça, tout le monde est venu. Puis c'était pas une... Il y en a qui pensent que c'était une ville fermée à cause du New York Times. Ils ont construit toutes ces affaires-là. Mais non, n'importe qui, un businessman, businesswoman, voulait... Bon, ben ça a l'air d'être une bonne place. Il s'ouvrait un magasin, pas de problème. Puis les employés ne se faisaient pas payer avec de l'argent du moulin. Là, c'était de la vraie argent qu'ils pouvaient dépenser où ils voulaient. Ils n'étaient pas obligés de le dépenser au magasin que la compagnie appartenait. Alors, c'est ça, c'est les petites différences là, de l'histoire. Il y en a des compagnies qui c'était... On te paye avec l'argent New York Times, puis là, tu vas aller acheter au magasin New York Times...
Mais là, c'était ouvert d'esprit pour dire « Allez où vous voulez ».
Absolument. Puis là, la communauté, quand tu as une communauté jeune, même si c'était jeune, mais que tu as l'implication de Kimberly Clark, qui était connue probablement autour du monde, le New York Times, même chose, les gens se sentaient confiants à venir ici puis s'installer avec des commerces, toutes ces affaires-là. Alors, c'était vraiment... supérieur pour Kapuskasing. C'est ça que je dis, on dirait qu'on était touché par une étoile, là. Puis on parle de ça dans une période d'à peu près 7-8 ans. C'est vite, là. Puis surtout qu'on était dans rien. Alors, on a vraiment été choyés d'avoir le New York Times dire « Ouais, c'est la bonne place », puis une chance à M. Sulzberger qui avait dit « Ouais, c'est ça, on va trouver du bois pour du papier ». Puis c'est ça qu'il a fait.
Puis New York Times a eu cette usine-là pendant combien d'années?
Eh bien, ça le compte. Il était propriétaire, partenaire jusqu'en 1991. Okay. Là, il voulait plus faire partie d'avoir un moulin qui faisait du papier journal. Alors, c'est à ce moment-là qu'ils ont sorti de Kapuskasing, 1991, le New York Times. C'est là aussi, 1991, qu'il y a eu tout le brouhaha à Kapuskasing parce que tout le monde voulait quitter le moulin puis laisser ça tomber à l'eau. Et puis après ça, on le sait dans l'histoire que c'était des employés qui ont acheté la compagnie à 51% et puis Tembec le restant. Et puis c'est ça. Mais c'est ça. 1991, là, depuis 1926 à 91, le New York Times était impliqué à Kapuskasing.
Un beau récapitulatif de l'histoire de l'usine par Julie Lademeux. Et maintenant, une autre partie de l'histoire quand même assez importante pour cette fameuse usine-là. C'est en 1973. Monsieur Florent Tanguay était à l'époque employé à cette usine-là et il y a eu une grève durant ces années.
En 73, pas vraiment, là, mais seulement que il y avait l'assignation un peu, là, mais c'était pas si pire que ça. Parce que il y a eu c'est en 75 qu'il y a eu la grève, là, tu sais.
OK.
Mais ça, c'était une grève très calme.
Une grève calme, ça a été quoi l'élément déclencheur, justement, de cette grève-là?
C'est parce que tous les moulins à papier tombaient en grève. Et puis, okay. Ce qui est arrivé, c'est que la compagnie a essayé d'exempter la grève en faisant une offre, puis retarder d'un an le contrat, puis le syndicat a refusé. Fait qu'on a sorti en grève. La compagnie a continué à payer nos plans, puis tout ça. C'est vraiment, on était bien traités.
C'était Florent Tanguay qu'on va retrouver un peu plus tard, bien sûr, dans l'émission, qui nous a parlé, en fait, de la grève dans les années 1970. Une grève assez pacifique, mais pour revendiquer la convention collective des employés. Revenez-nous dans quelques minutes pour notre histoire. On poursuit avec l'histoire de notre usine à Kapuskasing.
Notre histoire, l'émission Alexis et Nicoletta font le tour d'histoire dans la région.
Grâce à une subvention de Nouveaux Horizons.
Vous écoutez notre histoire au 89.7, 94.7. Vous êtes toujours en compagnie de moi-même, Alexis Boudreau. Notre histoire, c'est l'émission dans laquelle on fait le tour de des histoires qui ont touché notre communauté d'Opasatika jusqu'à Smoothrock Falls. Et maintenant, on parle de l'usine de Kapuskasing. On en a parlé un peu plus tôt dans l'émission. Les débuts dans les années 20 avec la construction de toute la municipalité avec le New York Times, etc., etc. Mais à un moment donné, New York Times a décidé de tout arrêter en 1991. Ils ont décidé d'arrêter de faire leur papier pour leur journal ici à Kapuskasing. Et pour sauver leur emploi, les employés ont décidé de racheter cette fameuse usine-là en 1991. Et M. Florent Tanguay est là pour nous l'expliquer.
Que Tembec a voulu acheter, Spruce Falls voulait fermer.
OK.
Ou parler de s'en aller sur un plan là, quasiment ce qu'on a aujourd'hui, là.
OK.
Ça fait que. Et puis là, ben, l'enjeu était qu'il essayait de vendre le barrage de Smoky Falls, là, qui est à 80 km au nord. Et puis là, ben, il y en a qui disaient, ben, le gouvernement, ben, il ne voulait pas investir avec l'hydro là-dedans parce que ça, 100 000 $ qu'il donnait, plus tant de. Je pense que 20 ans d'électricité ou gratuitement, là, pour un certain nombre de kilowatts, là, mégawatts plutôt. Ça fait que là, ben, finalement, il s'est rendu compte, il y a eu des protestations. Là. Ça a été, il y a un groupe qui a été jusqu'au Parlement, puis ici, tu as fermé le chemin par intervalle. Là, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, le gouvernement s'est rendu compte que si l'usine fermait, ça lui coûtait plus cher les impôts que le monde payait que ce qu'ils payaient, eux autres, à long terme, tu sais. Parce que quand tu travailles pas, tu payes pas d'impôts.
Ouais. Puis... Comment, parce que là, après, j'imagine, ce moment-là, c'est là que les employés et les gens de la communauté ont décidé d'acheter l'usine?
C'est ça, c'est parce que là, il manquait un certain montant d'argent. Et puis là, ils ont demandé ben, à la communauté d'investir, mais les banques ne voulaient pas prêter. Parce que les banques, ils disaient, ben si on perd. Et puis la Caisse populaire a dit, nous autres, on va le prêter. 15 000 $ à chaque personne sans intérêt.
Oh, quand même!
Et puis, là, les autres banques, ben, ils n'ont pas aimé ça. Ils ont commencé à le faire après, mais c'était un peu tard pour eux autres.
Ouais.
Mais parce que, de toute façon, comme la Caisse populaire disait, si personne n'a des emplois, on perd tout pareil. Et puis, si on sauve les emplois, on va te rembourser. Puis, tu sais, ça fait que c'était vraiment un esprit de communauté.
Oui, oui. Puis, justement, cet achat-là, c'est la banque, la Caisse populaire qui vous a donné l'argent.
Oui.
Après, ça ressemblait à quoi l'ambiance quand c'était rendu, justement, à la communauté?
L'ambiance, moi, je disais qu'elle était très bonne. Très bonne. Puis même au début de tout, là, moi, c'est que quand ils ont pris ça en main, les employés avaient des... ce qu'ils appellent en anglais « profit sharing », le partage des profits.
Mm-hmm.
Et puis à Noël, tu avais un beau gros chèque de surplus. Et puis, fait que ça, ce qui arrive, c'est que quand tu es propriétaire, copropriétaire, si ton coéquipier ne veut pas faire son ouvrage, tu dis, hey, tu m'enlèves d'argent à moi pas à toi, là. Fais ton ouvrage. Tu sais, puis fait que ça n'a pas créé de
ça. Il n'y a pas eu de chicane.
Il n'y a pas eu de chicane, mais ça faisait réaliser à tout le monde que faut que tu fasses ta part. Si tu veux que. Et puis, quand ça commençait à aller moins bien, c'est quand la compagnie a enlevé ça, là, le partage des profits, et puis qu'il donnait au premier en tête de la compagnie.
Malgré tous les problèmes qu'ont vécu les employés, bien sûr, dans les années 20 jusqu'en 1991, faut le dire que le New York Times traitait assez bien ses employés. Julie Lademeux est là pour nous expliquer comment ils traitaient bien leurs employés.
C'est incroyable parce que là, on parle aussi 1926. Il y a toutes sortes de monde qui sont venus ici, puis il y en a plusieurs qui ont resté. Beaucoup, beaucoup y ont resté. Et puis la compagnie les appréciait tellement que après 25 ans après 1926, à tous les 25 ans que quelqu'un avait leur anniversaire de travail pour la compagnie, ils faisaient des banquets pour le 25 ans. Alors, la compagnie... Alors, c'est quoi, là? 26 plus 25, c'est 40...
51.
En 1951, il y avait tellement d'employés qui célébraient leur 25e anniversaire avec la compagnie, qu'il y avait arrivé ici en 1926, là, ces employés-là, qu'il fallait qu'ils fassent deux banquets séparés parce qu'il y avait trop d'employés qui avaient resté de 1926 à 1951. Et puis... alors, les hommes, on le sait que c'est la plupart du temps, c'était les hommes qui restaient. Alors, les hommes recevaient leur épinglette de 25 ans en or de Burks, la bijouterie Burks. Ils recevaient une photo d'eux avec un beau certificat. C'est comme plus comme une carte de fête avec écrit en calligraphie pour leurs 25 ans. Ils recevaient une montre, puis en arrière de la montre, c'était écrit au complet, là. Merci pour vos 25 années de service à la compagnie Spruce Falls Power and Paper. Tout ça, l'écrit en arrière d'une petite montre. C'était pas les initiales SPF. Non. En grand. Ils recevaient aussi un gros plateau en argent. Encore de Burks. Les femmes recevaient... leurs femmes recevaient... c'était un beau compact pour se mettre de la poudre sur les joues, là.
Okay,
sur le nez. Oui. Puis, en argent, de la compagnie Burks. Oui. Puis, alors, c'était une grosse célébration, un souper, musique par après. Ils tenaient vraiment à cœur le bien-être de leurs employés puis de leur famille.
Il faut aussi parler de la documentation qui existe toujours là-dessus. Julie Lademeux se disait assez choyée que ce soit un journal qui avait toutes ces informations-là parce qu'ils ont pris plusieurs photos, à ce qu'elle nous explique.
Puis on est vraiment chanceux aussi. Une autre affaire, c'est que le New York Times, le Kimberly Clark, le Moulin ont pris des milliers puis des milliers de photos de toutes les étapes qu'ils ont faites. Alors, on voit de la construction des maisons pour leurs employés. On voit la construction de rues, de chemins, la construction de leurs édifices qui ont fait comme de raison, la construction du Smoky Falls, ensuite la construction des maisons pour les employés. Puis là, les maisons pour les employés, c'est une affaire qui est drôle. On a beaucoup encore qui restent ici en ville.
Mm-hmm.
Alors, le plus proche que tu étais de l'usine, tu étais les plus grands patrons. Quand tu étais un grand patron, tu avais ta maison proche, on va commencer à côté du club communautaire,
okay,
vers l'ouest. Puis tu avais ta grosse maison toute seule parce que tu étais un patron. Tu étais dans l'administration. Là, après ça, tu avais des maisons, on les voit encore aujourd'hui, c'est une maison double, juste deux maisons, mais elles sont quand même très grandes. Alors là, c'est un petit peu plus bas que les plus hauts. Après ça, tu avais des maisons, il y avait quelques maisons de rang aussi pour les employés, des plus petites, mais c'était quand même très une grande qualité de vie. Puis après ça, ça allait de plus en plus loin, là, mais les maisons avaient toutes une belle grande cour en avant, une belle grande cour en arrière. Les rues avaient été construites très larges, même avant que tout le monde ait 2-3 véhicules par maison, là. Très large, il y avait les espaces verts à l'intérieur. Ça faisait toute partie du plan de la ville de Kapuskasing. Et puis, c'est la séparation aussi entre l'usine puis la ville. Alors, tu étais assez loin, mais tu avais des espaces verts, mais c'était quand même assez proche pour aller faire toutes les affaires que tu avais besoin là, dans la région là, du début Kapuskasing.
Puis, ils ont toutes des photos de ça. Ils ont toutes gardé.
Toutes.
Ça paraît que c'est un journal qui avait ça, parce que si c'était une autre compagnie qui... ça dérange moins, ils gardent moins l'historique de tout ça, mais on sait qu'un journal, ça aime ça, en reparler plus tard, puis garder toute
exactement,
l'information.
Exactement. Alors, ils en parlaient dans leur journal, le New York Times, en gros, quand ils ont commencé cette histoire de se joindre avec Kimberly-Clark pour appartenir notre usine, mais ils en parlaient aussi dans leur journal interne pour leurs employés. Et puis ça avait tout été partagé avec le musée, ces articles-là, et puis il y a beaucoup d'affaires, ça s'appelle le Little Time. Ça, c'est pour les employés. Puis peut-être aussi ceux qui avaient des parts dans la New York Times. Alors, il y avait beaucoup d'affaires là-dedans aussi. Alors, les archives sur le New York Times puis Kapuskasing, c'est énorme. C'est merveilleux.
Merci, Julie Lademeur. Et j'aimerais aussi remercier Florent Tanguay d'avoir participé durant cet épisode de Notre Histoire, dans lequel on a parlé de l'usine de pâte et papier à Kapuskasing. Et en gros... on peut se le dire que c'est grâce à l'usine que Kapuskasing est aussi grand que ça aujourd'hui. Dans les années 20, ça a débuté avec le début du New York Times. Et par la suite, les gens sont venus s'installer parce qu'il y avait du travail à faire ici dans la région. Ils ont construit des maisons, ils ont construit un hôpital ici. Les gens ont voulu s'installer après toutes ces belles constructions-là. On peut se le dire, c'est grâce à ça que Kapuskasing est ce qu'elle est aujourd'hui. Et aussi... l'histoire de l'usine bouge toujours encore aujourd'hui, on peut se le dire dans l'actualité récemment, dans la dernière année. Il y a eu un autre achat de l'usine et j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer dans le futur pour l'usine assez importante pour notre région. Je veux remercier encore une fois Florent Tanguay, Julie Lademeur pour avoir participé à cette émission avec moi aujourd'hui. Mon nom c'est Alexis Boudreau et on se retrouve à une autre émission de Notre Histoire au 89.7 et 94.7.
Notre histoire, l'émission Alexis et Nicoletta font le tour d'histoire dans la région.
Grâce à une subvention de Nouveaux Horizons.